en parler donc avec un expert. Il s'agit de monsieur Youri Chassin qui est avec nous. Donc qui est économiste à l'Institut économique en fait de Montréal. Bon matin monsieur Chassin.
Bon matin.
Vous allez bien?
Absolument, et vous?
Oui, ça va bien. Ben justement dans la lignée de cet article là, moi j'ai été surpris d'apprendre que on pouvait pas penser améliorer par exemple la situation économique du gouvernement un petit peu plus que ça, parce que tu sais, j'avais l'impression que les richesses naturelles au Québec étaient sous-exploitées, et on nous dit même qu'avec le plan Nord là, ça changera pas grand-chose.
En fait, la nuance que fait l'étude de Desjardins est importante, hein, c'est qu'il y a une grande différence entre un potentiel de ressources naturelles et une richesse provenant des ressources naturelles. Et ce que ça établit, c'est qu'il y a un potentiel intéressant au Québec, tant dans le secteur minier que dans le secteur forestier, voire même avec les gaz de schiste, mais que de l'exploiter, c'est effectivement, il faut accueillir des investissements, il y a des conditions à réunir pour ça, et que pour le gouvernement, les redevances, les revenus qu'on peut en tirer ne sont pas suffisants, ou même si on exploitait là, davantage, par exemple, les gaz de schiste, même si on avait 3000 puits en exploitation, les redevances, là, c'est à peu près 400 millions de dollars. Donc, on est encore loin d'une solution magique pour se sortir du trou dans les finances publiques.
Ben d'ailleurs, on nous apprend, en fait, que richesses naturelles au Québec représentent à peine 2,2% de la taille de notre économie, contre plus de 20% là, pour plusieurs provinces, dont l'Alberta, entre autres. Donc, c'est très peu, à peine, même pas 3%.
C'est peu, évidemment, ça a une valeur néanmoins. Là, quand on parle de même pas 3%, c'est quand même des milliards de dollars. Mm-hmm. Et potentiellement, que justement, il y a quand même ce potentiel, il faut l'exploiter davantage. Je pense, par exemple, à l'hydroélectricité. On a une grande richesse en hydroélectricité, mais il y a effectivement encore des endroits là où on pourrait construire des barrages et avoir des mégawatts supplémentaires qu'on peut après vendre, par exemple, à l'étranger, comme Hydro-Québec l'a fait récemment là, en vendant aux États-Unis ou en Ontario, à des très bons prix, étant donné la canicule de chaleur. Donc, il y a ce potentiel-là qui pourrait être exploité davantage, mais dans d'autres secteurs de ressources naturelles, ça pourrait être le cas aussi. Mais évidemment, il ne l'est pas encore, et c'est peut-être ça là, la réserve dans l'étude des jardins, c'est que quand ça ne l'est pas encore, ça demeure un potentiel, ce n'est pas actuellement une richesse.
Dans quel domaine on peut espérer avoir le plus de potentiel? Le secteur minier?
Le secteur minier est en boom, et ça dépend beaucoup des prix, et à l'heure actuelle, les prix des ressources minières sont effectivement très élevés. C'est dû en partie aux économies émergentes. On pense à la Chine ou à l'Inde ou à d'autres économies qui ont besoin de matières premières, et on est capable d'en fournir. Ceci étant dit, pour, par exemple, le plan Nord, pour réussir à leur en fournir, ça demande effectivement des investissements importants, des investissements du secteur privé. Et le secteur privé va investir à partir du moment où les prix sont élevés. Mais si les prix redescendent, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il faut avoir, dans le fond, une certaine prudence par rapport à la richesse qu'on va pouvoir en tirer.
M. Chassin, j'ai toujours toujours pensé qu'on n'avait pas le gros bout du bâton dans nos négociations. On s'affirmait pas assez avec les fameuses redevances depuis de nombreuses années. Ça part depuis les mines, ça, où les Américains venaient ici pour nos, et on leur donnait nos ressources naturelles parce que ça créait des emplois, la fameuse création d'emplois. Et là, le gouvernement Charest, dans le dernier budget, annonce une augmentation des redevances pour le secteur minier. Je crois que ça partait de 12 et là, on va monter jusqu'à 16% de mémoire. Mais est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à avoir des redevances de 16% quand on y va aussi avec des subventions en dessous, des tarifs préférentiels pour l'électricité, et qu'en bout de ligne, c'est pas 16%, c'est 4% qui revient dans nos poches?
Et en fait, je rajouterais à votre liste, en plus, il faut, puis c'est un peu logique, là, il faut développer des infrastructures, par exemple des routes ou des lignes d'électricité. Donc, il y a ces coûts-là que l'État assume par rapport à des redevances qui sont potentiellement faible. Donc, évidemment, il y a un jeu dans les redevances. Hein. Quand on demande d'énormes redevances, on fait fuir des investissements. Ça fait qu'il faut trouver un juste niveau, là, une question d'équilibre pour assurer le développement de ce potentiel de ressources naturelles. Puis en même temps, il faut effectivement que l'État puisse avoir sa part pour pouvoir profiter dans le fond de cette richesse-là collective, en quelque sorte. Là, ces ressources-là appartiennent à tous les Québécois.
Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui fait, M. Chassin, qu'on n'est pas capable d'avoir ce juste milieu-là? Parce que la ressource naturelle, là, il n'y a pas une date de péremption dessus. Là. Elle va rester là, être bien dans le sol, puis normalement, ça va pas à la baisse trop rapidement. On est dans une bonne croissance pour la valeur de nos ressources naturelles. Vous parlez du secteur minier. On est supposé avoir le gros bout du bâton dans les négociations, non?
En fait, là, on effectivement, la ressource, elle est là. Et puis, les prix sont intéressants.
Ben oui.
Il y a un potentiel. L'investissement va considérer, dans le fond, est-ce que c'est ici l'endroit où on a le plus de chances d'avoir cette ressource à bon prix, de façon durable. Et puis, il y a des risques. Et c'est dans le fond, c'est ça. C'est les investisseurs privés là, qui vont, mm-hmm. qui vont décider ou non de prendre ce risque-là. Évidemment, il y a toutes sortes de choses qu'il faut prendre en compte, puis je reviens un peu à l'exemple du gaz de schiste, qui est peut-être l'exemple dont on a entendu parler le plus. Mm-hmm. Le gaz de schiste, on n'y est pas en exploitation ici au Québec, mais il est en exploitation, par exemple, en Pennsylvanie ou dans d'autres endroits, et ça a fait diminuer un peu le prix. Donc, il y a peut-être des entreprises qui se disent, ben c'est peut-être pas le temps d'investir massivement dans l'exploitation du gaz, vu que les prix sont un peu plus bas.
Ouais.
Est-ce que il y a cette même réflexion par rapport au risque pour d'autres industries des ressources naturelles, à la limite pour le bois. Le bois, au Québec, on a dans le fond du bois d'œuvre qu'on exporte vers les États-Unis, mais ces exportations-là ont chuté dramatiquement parce que la construction résidentielle aux États-Unis a nettement ralenti. On est un peu pris avec ça, là.
Je suis pas spécialiste, alors j'étais un peu étonné, moi, de lire, par exemple, dans l'étude de Desjardins, que l'agriculture et la pêche est une importante richesse naturelle et qui génère plus de 8,8 milliards par année de revenus.
Oui, tout à fait. Évidemment, le problème, c'est qu'on subventionne aussi ces activités-là assez mm-hmm. considérablement. Et même quand on les subventionne pas, mais bon, il y a certains mécanismes, par exemple la gestion de l'offre, hein, qui est un mécanisme où on protège la production actuelle, on protège les producteurs et on fait payer ce coût-là au consommateur. Donc, c'est pas le contribuable à travers le gouvernement qui les subventionne, mais le consommateur le fait néanmoins. Donc, c'est sûr qu'il y a d'autres coûts dont il faut tenir compte pour voir au total qu'est-ce qu'on y gagne. Il y a quand même, en termes d'agriculture, un potentiel à développer parce que on pourrait justement alléger la réglementation et laisser nos fermiers devenir plus innovateurs. Avoir, dans le fond, répondre à des demandes des marchés plus spécifiques, spécialisés, même si ça correspond pas à l'image qu'on a de l'agriculture là des dernières décennies. C'est évidemment des nouveaux champs, puis ça fit peut-être pas dans les cadres des subventions actuelles, mais au contraire, c'est légitime là, de les laisser tenter l'aventure, surtout si ça coûte moins cher en subvention.
Vous parliez tantôt de la vague de chaleur qui permet à Hydro-Québec d'exporter de l'électricité aux États-Unis et en Ontario également. Vous parlez des tarifs, puis ça m'intéresse particulièrement. Est-ce que ce sont vraiment, vous insistiez là-dessus tantôt, ce sont vraiment des tarifs intéressants pour Hydro-Québec à l'exportation présentement?
Ben, en fait, dans les vagues de chaleur, c'est le moment aux États-Unis où il y a vraiment des pointes de consommation dans l'année. C'est là où la consommation est la plus élevée et où les tarifs, finalement, sont les plus élevés pour les opérateurs, donc les distributeurs d'hydroélectricité, en fait, d'électricité tout court. Et ils sont prêts à acheter très cher nos mégawatts. Pour Hydro-Québec, c'est idéal comme situation parce que au Québec, les pointes de consommation, c'est l'hiver. Donc, l'été, on peut en sortir, on peut en vendre des mégawatts sans problème pour l'approvisionnement québécois, puis on les vend justement à un très bon prix. Et vraiment, là, ce qui est intéressant, c'est que, pour une fois, Hydro-Québec vraiment se préoccupe du rendement de l'actionnaire, qui est le gouvernement dans son cas, et vraiment maximise l'argent qui rentre au Québec. Contrairement aux tarifs, évidemment, québécois, qui sont aussi subventionnés, parce qu'on consomme de l'électricité vraiment pas cher, en dessous de ce qu'on...
C'était mon autre question, effectivement. Est-ce que vous pensez donc que le tarif domestique est trop peu élevé, en fait?
Ouais.
Les tarifs domestiques au Québec sont en dessous du marché.
Mm-hmm.
Donc, on paye moins cher que ce qu'on devrait payer et ce qui, en fait, amène là, toutes sortes d'inefficacités parce que, évidemment, quand on paye moins cher que ce qu'on devrait payer, on en consomme plus, on fait un peu moins attention. On a beau mettre en place toutes sortes de programmes d'économie d'énergie. Si, en bout de ligne, on paie moins cher quand on gaspille, on va gaspiller davantage.
Combien on devrait payer? Parce que là, on est à quoi? 7 cents à peu près, le kilowattheure, c'est ça?
Oui, en fait, il y a toute une question là des 30 premiers mégawatts qu'on... des 30 premiers kilowatts qu'on consomme, les 30, ouais. En fait, des 30 suivants, etc. Il y a clairement, là, je vous dirais au total, il y a plusieurs milliards de dollars qu'on perd, étant donné les prix en dessous de du prix du marché. C'est difficile à évaluer, mm-hmm. parce qu'évidemment, le prix du marché, lui, fluctue. Alors, ça varie, et les prix qu'on paye, nous, sont stables, mais c'est quelques milliards, là.
Mais pour donner une idée aux auditeurs qui écoutent quand même, là, le prix au kilowattheure au Québec est fixé à peu près à près de 8 cents. Là, puis à l'exportation, on vend ça quoi? À peu près 30 cents, je pense?
Au meilleur moment, exactement. Ouais, ouais. Ça peut monter jusqu'à 30 sous. Évidemment, notre consommation à nous, étant donné que c'est sur toute l'année, ça serait difficile de nous faire payer 30 sous tout le temps. Au total, ça montrait de quand même peut-être 50% ou quelque chose comme ça, mais donc on parle de payer 10, 11 sous le kilowattheure, par exemple, en moyenne.
On comprend que c'est des décisions c'est-à-dire politiques et non pas économiques, ouais. dans le cas des tarifs d'Hydro-Québec au Québec.
Absolument.
Si en terminant, on parlait un peu de ce qui se passe aux États-Unis, évidemment, parce que bon, il y a une crise majeure là entre les républicains, les démocrates, le président Obama. J'aimerais ça que vous pourriez nous donner une petite idée de l'impact que ça pourrait avoir sur le Canada éventuellement, là, si on résolut pas ce conflit présentement aux États-Unis. On peut penser que ça va se régler, là, j'imagine, là, parce que je peux pas croire que les Américains vont laisser aller la situation. Ils ont quand même un certain contrôle. Le président a quand même un certain contrôle, un droit de veto également. Mais quel genre d'impact ça pourrait avoir, particulièrement au Canada, où l'économie va quand même relativement bien?
En fait, il y a vraiment deux éléments là-dedans. Premièrement, il y a déjà un impact. Hein. On voit, par exemple, que le dollar canadien sur les marchés s'apprécie parce qu'il y a des investisseurs qui trouvent que là, ça devient risqué d'avoir des obligations américaines, qui disent on va se débarrasser de nos investissements dans l'économie américaine et puis les placements... se diminuant, ben dans le fond, le dollar américain baisse. Et une des valeurs refuge, c'est entre autres le dollar canadien, où
donc,
l'économie va relativement bien.
C'est pour ça qu'on est à 1,06 $, là.
Ouais. Exactement. Évidemment, pour nos exportateurs, c'est un peu difficile de voir cette valeur du dollar grimper. Et puis d'autre part, et c'est ça qui est un peu particulier, c'est que effectivement aux États-Unis, ça risque de se régler. Ils vont remonter le plafond de la dette. Le problème, c'est qu'évidemment, à long terme, le fait que les États-Unis deviennent de plus en plus endettés, vont atteindre bientôt 100% d'endettement, si ce n'est déjà fait. Donc, en termes de PIB, ils doivent tout ce qu'ils produisent en un an, ils doivent au marché financier. Ça cause un problème à long terme parce qu'évidemment, c'est de l'argent qu'il va falloir rembourser éventuellement. Ils ont le même problème qu'ici au Québec, finalement, où on s'endette aussi puis on passe la facture un peu au suivant. Eux, ils ont un plafond de dette qui, finalement, ne limite pas du tout l'endettement parce qu'il remonte à peu près à chaque fois qu'ils en ont besoin. Là, tout à coup, il y a une crise parce qu'on ne sait pas si on va le remonter. Mais au Québec, c'est un peu la même chose avec notre loi sur l'équilibre budgétaire qu'on a suspendue au moment où on avait besoin de faire des déficits parce que la loi nous empêchait. On s'est dit, ben, on va suspendre cette loi-là, on va pouvoir faire des déficits. Finalement, c'est peut-être un peu hypocrite d'avoir une loi de déficit zéro si on peut s'en passer à partir du moment où on veut s'endetter.
D'ailleurs, c'est drôle que vous fassiez la comparaison parce qu'on nous dit dans la presse affaires ce matin que Washington paie plus cher que Québec pour emprunter.
Oui, et c'est assez étonnant, mais c'est une première. Et en fait, l'idée étant qu'ils ont vraiment des risques là tout à coup en ce moment. Et puis, j'espère effectivement que ça va se régler et qu'on ne vivra pas de contre-coup plus grave parce qu'on en ressent déjà les effets finalement.
Mm-hmm. Merci beaucoup, M. Chassin.
Merci à vous.
C'était Youri Chassin, donc, qui est économiste à l'Institut économique de Montréal. Très intéressant.